les 21 et 22 octobre.
Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour notre rentrée radiophonique avec cette demi-heure consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, il y a Aimé et Philippe aujourd'hui. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir, ravi de vous retrouver.
Bonsoir également à Pierre, à la technique.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous accueillerons Brigitte et Daniel du Mouvement de la Paix 49. Puis nous parlerons de l'actualité et nous écouterons la chronique de rentrée de notre antenne jeune. Et puis nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, commençons par l'éditorial. Excusez-moi, Philippe, tu vas nous parler de l'Iran.
Le 12 septembre 2022, Mahsa Amini, une jeune iranienne d'origine kurde, était arrêtée à Téhéran par la police des mœurs pour un port de voile jugé inapproprié. Elle décédera 3 jours plus tard, vraisemblablement des suites des coups reçus à la tête durant sa garde à vue. Dans les jours qui ont suivi sa mort, une vague de contestation, inédite par son étendue et sa durée, a submergé le pays. Les Iraniennes décidées à retirer leur foulard sont au cœur de ce mouvement, dont le slogan devient rapidement « Femme, vie, liberté ».
Alors comment a réagi le pouvoir ?
Ce soulèvement inédit est réprimé immédiatement dans le sang. Les forces de sécurité ont délibérément tiré à balles réelles sur les personnes qui descendaient dans les rues. Au moins 7 jeunes hommes ont été pendus pour avoir pris part au mouvement. Des centaines de manifestants ont perdu la vie, dont des dizaines de mineurs. Cette répression s'est accompagnée d'un discours mensonger des autorités qui expliquait les raisons de la mort de ces manifestants par des suicides ou des accidents. Un an après la mort de Mahsa, aucun fonctionnaire n'a fait l'objet d'une enquête, ni de poursuite, ni d'aucune sanction. Les crimes commis pendant et après le soulèvement l'ont été en toute impunité.
Et quelle est la situation un an après ?
Depuis avril 2023, tout un arsenal répressif est déployé. Retour en force de la police des mœurs, recours à des technologies de surveillance pour traquer les femmes qui ne portent pas le voile, mise en place d'une nouvelle loi qui prévoira des sanctions encore plus sévères. Partout dans le pays, par exemple, les propriétaires de voitures dans lesquelles se trouve une femme tête nue reçoivent l'ordre de se présenter à un poste de police. Le véhicule est ensuite envoyé à la fourrière. Les femmes ainsi arrêtées sont contraintes de signer une lettre dans laquelle elles s'engagent à ne plus se déplacer sans foulard. En cas de récidive, elles encourent une peine de prison. La présence de femmes non voilées a aussi entraîné la fermeture de nombreux commerces, restaurants, cafés, hôtels, salles de cinéma et même des parcs. Dans le monde du cinéma, des actrices qui avaient osé paraître en public sans foulard se sont vues interdire de jouer dans certaines productions.
Et aujourd'hui, il n'y a plus de manifestations.
C'est exact. Bien que des Iraniennes continuent toujours à défier le pouvoir en sortant sans voile. À l'approche de l'anniversaire, les autorités ont intensifié leur campagne d'arrestation arbitraire, notamment de proches des victimes, afin de les faire taire et de perpétuer l'impunité. Elles ont contraint des milliers d'étudiants à s'engager par écrit, à ne pas participer aux manifestations de commémoration. Et fait absolument choquant, certaines tombes de manifestants qui ont été assassinés sont régulièrement profané par les suppôts du régime.
Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de cette insurrection ?
Cette mobilisation héroïque à la base a hélas été emportée par les mêmes faiblesses qui avaient condamné une décennie plus tôt une bonne partie des printemps arabes ainsi que le Hirak algérien. Ces forces, la spontanéité, la générosité, la viralité n'ont pas compensé ces faiblesses, absence d'organisation, de figure de proue et de véritables feuilles de route. L'Iran est aussi, il faut le dire, auréolé de ses récents succès diplomatiques. Son admission au sein des BRICS, qui regroupent Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, en atteste. Et à la surprise générale en mars, Téhéran a aussi signé un accord de détente sous les auspices de la Chine avec son vieil adversaire régional, l'Arabie Saoudite. Donc, il faut bien reconnaître que le régime est loin d'être isolé sur la scène internationale.
Alors comment peut-on envisager l'avenir ?
Incapable de répondre à la crise économique qui frappe durement la population, le régime militaro-religieux iranien a rompu avec un peuple désormais plus nombreux, plus urbains, bien plus éduqués, à commencer par les femmes. Et donc ce peuple a l'avenir pour lui. Cette date anniversaire rappelle aussi à tous les États qu'ils doivent exercer leurs compétences universelles en vue de diligenter des enquêtes pénales sur les crimes perpétrés par les autorités iraniennes. Un acte essentiel pour notamment montrer aux victimes qu'elles ne sont pas seules.
Merci Philippe. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Brigitte et Daniel du Mouvement de la Paix 49. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Merci. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, on ne présente plus votre association, mais un petit rappel ne va pas nous faire de mal.
Ah, bien sûr. Le Mouvement de la Paix est véritablement une vieille association puisqu'elle a été créée en 1948. Elle est issue des grands courants de la résistance et elle a progressé depuis, avec tout ce qui s'est passé au niveau des droits de l'homme et des réfugiés. Sur le Maine-et-Loire, eh bien, la démarche a été plus importante depuis les années 90, puisque il y avait encore des essais nucléaires de Polynésie en 95, à partir de là, et il y a eu véritablement de grands mouvements en ce moment. À ce moment-là, on était encore un mouvement de masse.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la position du Mouvement de la Paix sur le sujet du nucléaire ?
Alors, la position du nucléaire du Mouvement de la Paix, elle n'est pas la sienne. Elle est celle de ICAN, puisque le Mouvement de la Paix s'est retrouvé dans le monde avec maintenant 650 associations ou ONG qui participent à la démarche d'imposer l'interdiction des armes nucléaires. Imposer, ça y est, c'est fait maintenant, puisque le 7 juillet 2017, l'Assemblée générale de l'ONU a voté par 122 voix, 122 pays qui ont adopté l'interdiction des armes nucléaires. Et ce traité est entré en vigueur lorsqu'il y a eu 50 pays qui l'ont ratifié, c'est-à-dire le 22 janvier 2021. Depuis le 22 janvier 2021, les signataires, ceux qui l'ont adopté, s'interdisent la mise au point, l'essai, la production, le stockage, le transfert, l'utilisation de la menace de l'utilisation d'armes nucléaires en raison des conséquences humanitaires catastrophiques qu'entraînait leur utilisation. Et bien sûr,
La France a signé ?
Mais non, la France n'a pas signé, elle n'était même pas présente à ce moment-là. Comme toutes d'ailleurs les pays qui ont l'arme nucléaire. Donc, l'ONU, c'est un pays, une voix. Eh ben, on constate que les pays les plus armés, les plus forts, qui sont les plus forts, eh ben, ils imposent leur technique, ils imposent leur voix, ils imposent leur diktat au plus grand nombre. Mais on avance. Aujourd'hui, il y a 68 pays qui l'ont ratifié et il y en a encore 22 qui l'ont signé et qui vont l'adopter dans les mois qui viennent. Donc, on a confiance.
Mais il y a quand même un certain nombre de pays qui sont en gros dans le sud, hein, global, comme on dit, qui préparent activement leurs bombes nucléaires, qui sont pas loin de l'avoir. Je pense à la Corée du Nord, je pense à l'Inde, je pense au Pakistan, à l'Iran, bien sûr, dont on vient de parler. On voit quand même que l'arme nucléaire est devenue quelque chose de très, très important pour ces pays-là pour accéder sur la scène internationale.
Alors, juste une petite parenthèse, si on peut bien, parce que on nous avait parlé que l'arme nucléaire était une arme dissuasive. L'arme nucléaire, personne ne nous attaquera. Ben oui, sauf que la Russie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a menacé l'utilisation de l'arme atomique et puis elle a envahi l'Ukraine. Donc on voit bien que c'est pas une arme dissuasive. Et puis d'autant plus aujourd'hui que avec les drones, mais aussi avec la stratosphère, on a des armes qui sont indétectables. Donc ça veut dire que le premier qui va l'utiliser, c'est celui qui va avoir gagné. Donc l'arme nucléaire doit être détruite. Alors dans notre département, nous notre association a fait une démarche tout à fait particulière en direction des maires, puisqu'il y a 233 maires des communes du Maine-et-Loire qui ont signé l'appel du maire d'Hiroshima pour l'interdiction des armes nucléaires.
À Angers également,
et y compris Béchu. D'accord. Béchu a signé, Antonini avait signé, Béatz avait signé, Moni avait signé. Oui, ils ont tous signé, mais il faut qu'on les pousse. Et d'ailleurs, le 21 septembre, quand on était Place de la Paix, pour commémorer le jour international de la paix, eh bien, il y a toujours quelqu'un, un représentant du maire qui parle.
Oui.
Hein, donc, on est bien toujours dans cette démarche de faire participer tout le monde.
Tu as parlé de la Russie et de l'Ukraine, on va peut-être tirer ce fil.
Oui, voilà.
Hein, si vous en êtes d'accord.
Vous prônez dans vos documents quand même une solution négociée. Mais est-ce que cette position ne peut pas paraître un peu irréaliste actuellement ? Parce que si effectivement les deux parties s'assoient à la table des négociations, comme par exemple le souhaite Erdogan ou Sarkozy aussi, on sait très bien que l'Ukraine sera amenée à céder une partie de son territoire. Par exemple, elle serait fermement invitée à laisser la Crimée. Comment vous voyez ça ?
L'issue de ça, c'est bien ce qui sera imposé aux belligérants. Je dis belligérants, c'est pas tout à fait juste, puisqu'il y a
un agresseur
et un agressé. Ouais. Il n'empêche que on voit bien, avec les difficultés de la reconquête par les forces ukrainiennes, que c'est un tel bazar à dire. Ils avancent difficilement. Et avec des armes nouvelles qui vont arriver, il va y avoir des destructions en plus. Et là, ça bouffe des milliers de morts par jour. Hein. Et c'est caché, tout ça. Donc, s'il n'y a pas une volonté réelle, une poussée réelle de l'opinion mondiale, c'est ce qu'on avance, on n'aura pas de gens qui s'assoiront à la table des négociations. Mais ça va durer encore. Le Vietnam, ça durait combien de temps ? Et combien de temps avec des millions de morts au Vietnam. Donc, ça suffit. Il faut bien arrêter à un moment donné et se mettre devant une table.
Mais la Russie n'est pas du tout dans cette voie, puisque vous avez bien vu qu'elle a noué un partenariat stratégique avec la Corée du Nord récemment, nucléaire contre armement. On n'est pas du tout dans ce schéma.
Je crois que c'est quelque chose de très délicat.
C'est un long débat. Je crois qu'il est important pour nous, vis-à-vis de notre démarche vis-à-vis du grand public et des jeunes, c'est, eh bien, ce qu'on a décidé au départ, c'était la culture de la paix. Quand on veut aller vers la paix, ben, il faut cultiver la paix avant et la préparer.
Et en parlant de culture de la paix, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous avez prévu au niveau local, notamment les actions que vous avez prévues au niveau local? Je suppose que cette culture de la paix, vous essayez de la diffuser. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît?
Bien sûr. Donc, nos actions s'articulent autour de 8 points de résolution, à commencer par renforcer une culture de la paix par l'éducation. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très important, puisque ça nous permet de divulguer l'information. On a constaté lors de nos actions que beaucoup de jeunes n'avaient pas le temps de s'informer. Ils ne savaient pas où trouver l'information et n'étaient pas capables de faire la distinction entre les fake news et les vraies informations. Donc, je pense que notre rôle principal, c'est celui-ci, d'informer, d'aller à la rencontre des jeunes. Donc, par rapport à ça, nous avons une malle aux colombes qui contient de nombreux jeux interactifs, participatifs et de non-violence, puisque c'est une éducation à la non-violence, et qui délivre aussi. Et nous organisons aussi des conférences dans les lycées et les universités, et nous informons et distribuons des flyers à la sortie des restaurants universitaires. Nous dialoguons. Nous échangeons nos points de vue, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre. C'est toujours utile de participer à un débat. Et je trouve que c'est très important parce que nous éduquons à l'analyse et au sens critique. Mais bon, nous ne sommes pas les seuls, évidemment, à faire ça. Mais je pense que c'est important d'aller à leur rencontre, vu qu'ils sont souvent en examen et qui sont dans une priorité de travail, et que même on a constaté que même pour les lycées agricoles, la notion de l'eau et de l'absence d'eau n'est pas forcément évoquée, ni un point de partage important. Hein. Voilà. Alors sinon, moi, j'ai choisi que 2 points, hein, parce qu'autrement, on peut pas tous les développer. Donc ça, c'était
une minute,
le point
peut-être
numéro 1. Oui, et le numéro 4, c'est assurer l'égalité entre les hommes et les femmes par la pleine participation des femmes dans la prise des décisions économiques, sociales et politiques, hein, bien sûr, par l'élimination de toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes, notamment le viol fait aux femmes comme arme de guerre, par l'appui et l'aide aux femmes qui se retrouvent dans le besoin. Et nous organisons cette année une exposition intitulée « Femmes ambassadrices de paix » dans la semaine du 8 mars. Voilà.
C'est très intéressant. Merci pour ce petit point d'actualité sur vos actualités à venir. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu vos coordonnées? Comment est-ce qu'on peut vous contacter? Où est-ce qu'on peut vous contacter?
Là, notre association est à la Maison des associations à l'EFM, l'espace Frédéric Mistral à La Roseraie. Et notre mail, c'est mouvement de la paix tout attaché, en minuscule, @sfr.fr.
D'accord. Et ça, c'est 49?
C'est 49. Alors, on a le 7 octobre une grande manifestation qui va se dérouler partout dans le monde avec les 650 associations de ICANN. Et bon, ça sera un temps fort dans la bataille pour la paix.
Merci beaucoup.
De nous avoir... merci.
Rendez-vous le 7 octobre.
C'est bien noté.
Merci beaucoup. On se retrouve après une pause musicale.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
Et vous êtes bien de retour dans Droit Devant sur Radio G101.5. Vous venez d'écouter Barailler, une chanson écrite par Servine Hajipour, qui s'est inspirée des tweets rédigés par la jeunesse iranienne. Cette chanson est devenue un hymne universel pour la liberté. C'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
L'île italienne de Lampedusa fait face à un afflux de migrants sans précédent. Selon le journal Le Monde, depuis janvier 2023, près de 130 000 personnes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, sont arrivées en Italie. En l'espace de 3 jours, ce sont près de 7 000 migrants qui ont débarqué sur l'île. Le problème, c'est que les infrastructures de l'île font défaut. La capacité totale d'accueil est de 400 places. De nombreux migrants, et notamment des mineurs isolés et des familles avec enfants, se retrouvent ainsi livrés à eux-mêmes, sans eau ni nourriture. Au niveau européen, la perspective d'un engagement commun reposant sur le principe de responsabilité partagée semble compromise. L'Allemagne bloque la procédure de sélection des personnes exilées arrivant d'Italie. La France a quant à elle annoncé son intention de renforcer les contrôles entre Menton et Vintimille, une zone où la frontière est fermée et militarisée depuis des années pour les personnes exilées.
Nous avons parlé de la situation des femmes en Iran, mais celle des Afghanes est tout aussi grave. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir en août 2021, les talibans mènent une véritable guerre contre les femmes et les filles afghanes en restreignant dramatiquement leurs droits. Cette campagne de persécution fondée sur le genre est organisée, généralisée et systématique. Au regard de notre analyse juridique, elle pourrait constituer un crime contre l'humanité. Une pétition est en ligne sur le site d'Amnesty pour demander au président Macron de permettre aux femmes et filles afghanes à la recherche d'une protection de pouvoir rejoindre la France en toute sécurité.
Alors la Coupe du Monde de rugby, vous connaissez? Eh bien c'était probablement le dernier événement sportif à ne pas être surveillé par une intelligence artificielle. En effet, avec la loi votée en procédure accélérée, dans la perspective bien sûr des JO 2024, des caméras augmentées vont observer l'espace public à titre expérimentale, où elles doivent permettre d'identifier des situations anormales grâce à des algorithmes. Alors ça pose quand même plusieurs questions. Comment s'assurer que l'algorithme ne ciblera pas des groupes marginalisés? Comment va-t-il définir ce qu'est la norme? Et puis comment être sûr que ces mesures dites d'exception ne vont pas se poursuivre sur le long terme? Le respect de la vie privée et de la liberté d'expression sont également au cœur des enjeux soulevés par ce dispositif, car il va permettre non seulement la collecte massive de données personnelles, mais également une surveillance automatisée et disproportionnée de l'espace public.
Le mardi 19 septembre, face aux dirigeants réunis à l'Assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a défendu dans un discours remarqué le droit des femmes et leur liberté à s'habiller comme elles le veulent. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres parce qu'elles n'en portent pas assez, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, en français, alors que le reste de son discours était en anglais. Cette allocution a une résonance particulière en France, alors que l'État français interdit à la rentrée scolaire le port de l'abaya dans les écoles publiques.
Souvenez-vous, fin 2021, le média Disclose publiait une série de révélations d'une extrême gravité concernant les relations franco-égyptiennes. Au nom de la lutte conjointe contre le terrorisme, une mission aurait été initiée par la France et l'Égypte en 2015, l'opération Sirli. Mais celle-ci est devenue une lutte contre la contrebande et l'immigration, avec l'exécution extrajudiciaire de centaines de personnes en Égypte. Le 19 septembre dernier, la DGSI a placé en garde à vue la journaliste de Disclose, Ariane Lavrieux, et perquisitionné son domicile. Elle avait notamment contribué aux révélations. Elle a été libérée seulement après 39 heures, mais elle n'aurait jamais dû être arrêtée.
Le Haut-Karabakh est un territoire montagneux presque complètement entouré par l'Azerbaïdjan et relié à l'Arménie par une bande de terre très étroite. Eh bien, ce territoire est au cœur d'un conflit entre ces deux pays depuis 1917. Son rattachement à la République d'Azerbaïdjan a d'abord été décidé par Moscou en 1921. Et puis, à la chute de l'URSS en 91, le Haut-Karabakh a proclamé son indépendance par référendum. Seulement voilà, ça a fait éclater une guerre avec l'Azerbaïdjan et elle va faire plus de 30 000 morts. Et ce conflit n'est toujours pas éteint. La semaine dernière, les forces azerbaïdjanaises ont remporté une victoire éclair. Et maintenant, elles ont annoncé procéder avec la Russie à une démilitarisation de ce territoire. Les habitants craignent le pire, les premiers réfugiés sont arrivés en Arménie. Environ 120 000 personnes pourraient abandonner leurs biens dans l'urgence.
Et une bonne nouvelle pour terminer ces actualités.
Ouf,
l'avortement est enfin dépénalisé au Mexique à la suite d'une décision historique rendue par la Cour suprême mardi 5 septembre. C'est une avancée considérable pour les droits des femmes dans ce pays, alors que plusieurs États d'Amérique centrale s'opposent encore à l'avortement ou le limitent.
Et nous allons écouter maintenant la chronique de rentrée de l'antenne jeune d'Amnesty Angers.
Bonjour à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Elisa. J'étais également là l'année dernière sur la radio. Et en fait, je suis l'une des co-présidentes de l'antenne jeune Amnesty d'Angers, qui a été créée l'année dernière et qui continue ses activités cette année. Donc, évidemment, on vous tiendra au courant de tout ce qui se passe par rapport à nos événements donc sur la radio mais aussi sur notre compte Instagram. Mais en attendant, je voulais vous présenter une petite chronique par rapport aux actualités chez les jeunes. Donc nous allons notamment parler d'une polémique qui a eu lieu mais également de bonnes nouvelles à vous annoncer. Tout d'abord, la Belgique vit actuellement une vague d'émeutes violentes dans le centre de Bruxelles contre la loi Evras. 1500 personnes ont manifesté le dimanche 17 septembre contre en fait ce programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui fait extrêmement débat à cause de son application dès l'âge de 5 ans et de son contenu entre guillemets explicite. Donc en fait, cette loi est accusée de sexualiser les enfants et de les inciter trop tôt, par exemple, à des pratiques comme la masturbation ou à d'autres pratiques sexuelles. Sauf qu'en réalité, l'atelier vise à faire prendre conscience aux enfants qu'il n'existe pas qu'un seul schéma amoureux et identitaire, c'est-à-dire qu'on peut être attiré à la fois par des personnes de même sexe que nous, on peut également se sentir mal dans son corps, enfin voilà, ça sert en fait à déconstruire les stéréotypes sexistes et homophobes, également transphobes. Ça sert aussi à prévenir de la violence dans les relations amoureuses, d'alerter sur la dangerosité de la pornographie, de réduire les infections sexuellement transmissibles et d'autres sujets comme ça un petit peu tabous. De plus, l'animation n'aurait lieu que 2 heures par an, ce qui n'est pas excessif, et les thématiques seraient abordées progressivement en fonction de l'âge des enfants. Donc cependant, ce programme fait donc l'objet de nombreux malentendus et beaucoup de fausses informations et même de théories du complot infamantes circulent sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé une partie de la population à manifester. Donc la deuxième actualité, c'est donc une bonne nouvelle, elle est beaucoup plus locale. On va donc parler des aides alimentaires qui sont disponibles pour les étudiants à Angers, puisque en effet, comme vous le savez, il devient plutôt difficile de manger et de bien manger lorsque l'on a un petit budget. On adore les pâtes, mais c'est encore meilleur quand elles sont accompagnées de viande et de légumes. C'est notamment meilleur pour la santé. C'est pour cela que l'association COPIN, COP1, qui est entièrement gérée par des jeunes, essaye de pallier donc à cette précarité étudiante. Et pour la rentrée, elle organise une distribution exceptionnelle le jeudi 28 septembre au quai, donc à la cale de la Savate à Angers. Il suffit de s'inscrire sur leur site copin.fr, donc COP1, de ramener son sac et sa carte étudiante et de profiter donc de nombreux produits alimentaires et hygiénique. On a également l'association Solidary Food qui continue ses rendez-vous hebdomadaires pour lutter contre le gaspillage et la précarité. Donc chaque lundi de 16h à 18h, il y a toute une équipe de bénévoles qui vous accueille au J d'Angers, donc qui est place Imbach. Et c'est en fait un marché anti-gaspille qui privilégie les circuits courts et qui permet à tous d'avoir accès à des produits de qualité.
Droit devant sur Radio G 101.5 et c'est le temps de l'agenda militant et culturel.
Une date à noter dans vos agendas, le 2 octobre 2023, ce sera l'ouverture de Maison Olympe, un centre de santé qui propose des consultations de santé gynécologique et des ateliers d'estime de soi à Angers. Rendez-vous 3 rue de l'Écriture.
Ah oui, à mon plaisir. Le 5 octobre au 400 coups, ciné-rencontre avec le film Les algues vertes de Pierre Jolivet, en présence de Inès Leroux, journaliste et documentariste, co-autrice de la bande dessinée Algues vertes, l'histoire interdite, et Antoine Forest, éleveur bio et président du groupement BioDirect. Ce sera à 20h.
Le samedi 7 octobre, rendez-vous au Jardin Zur, à Saint-Barthélemy, pour une journée solidaire et festive organisée par SOS Migrants. Au programme, rencontres avec des associations, spectacles, lectures, jeux et restauration.
Et le 7 octobre, il y aura certainement une manifestation organisée par le mouvement de la paix, hein, c'est bien ça ?
Par les associations.
Les associations. Qui veulent la paix. Tout à fait.
Et la paix, et la paix, et la paix dans le monde.
Et enfin, du 11 au 20 octobre, c'est le L, avec un S, Festival à Angers. Pour cette deuxième édition, le Shabada reprend son engagement vers l'égalité des genres et la place des femmes dans les musiques actuelles. Au programme de ces 10 jours, vous pourrez découvrir des artistes, admirer des œuvres, partager des discussions, mais aussi pratiquer la musique avec d'autres. Parmi toutes ces propositions, nous avons retenu plus particulièrement la balade urbaine et musicale et gratuite qui partira le samedi 14 octobre du Joker's Pub. Ça commencera à 14h, ça sera jusqu'à 17h. Il est déjà presque 19h30 et c'est le temps de conclure cette émission et de remercier Brigitte et Daniel pour leur venue. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook à amnesty.angers. À très bientôt sur les ondes de Radio G.
Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci
beaucoup. À bientôt.
À bientôt. Bonne soirée.